Chers auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Dialogue interculturel et citoyen. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Brigitte Stora, qui intervient dans une conférence de la LICRA Dijon, et qui se nomme le 7 octobre, un an après.
Bonjour.
Bien, Madame Stora, donc vous êtes invitée par la LICRA Dijon pour cette conférence. Je voulais savoir quel serait le fil conducteur de votre intervention, d'autant plus que vous avez eu la particularité d'être en Israël peu de temps avant ce terrible événement. Et vous êtes aux premières loges, je dirais, pour parler des événements et la manière dont vous l'avez ressenti et dont vous l'analysez maintenant avec un peu de distance.
Oui, j'étais en Israël et en Cisjordanie du 30 septembre au 6 octobre 2023, donc dans un voyage organisé par les Guerrières de la Paix pour rencontrer donc des militants et des militantes qui là-bas continuent à garder l'espoir et à maintenir le dialogue. Le 7 octobre, bien sûr, c'est un choc, c'est comme une déflagration qui va finalement... On le sait, hein, pour Israël, c'est vraiment la fin de l'illusion de la sécurité. Mais surtout pour les Juifs du monde, je crois qu'il y a quelque chose qui vacille, quoi. Parce que, qu'on le veuille ou non, Israël, c'est considéré comme un possible refuge, quoi. Voilà, c'était le pays qui avait été construit aussi pour être éventuellement ce refuge face à l'antisémitisme. Et puis là, on s'aperçoit que voilà, que ce refuge-là, ça n'existe pas, ou c'est devenu lui-même quelque chose de très très vulnérable, comme si la vulnérabilité juive était venue trouver un écho. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui a été visé dans le 7 octobre. Je lisais un très bon livre d'Amir Tibon qui s'appelle « Les portes de Gaza », qui est le livre d'un journaliste de Haaretz, qui est d'ailleurs aujourd'hui visé par Netanyahou. C'est donc un jeune homme de même pas 40 ans qui a vécu dans son kibboutz Nir Oz l'attaque du 7 octobre, qui s'est caché pendant plusieurs heures donc dans un abri jusqu'à être secouru par son propre père. C'est une histoire qui avait fait beaucoup de bruit là-bas. Et il raconte en parallèle cette journée et toute l'histoire en fait d'Israël. Notamment, il parle de l'architecte du 7 octobre qui était Yahya Sinwar, en disant que peut-être qu'il y a un petit péché d'orgueil de la part d'Israël ou d'une certaine vision occidentale qui considère certains comme des monstres, vous voyez, ou des barbares. Et en réalité, cet architecte, parce que ça s'appelle comme ça, du 7 octobre, c'était quelqu'un qui connaissait très bien l'histoire juive, qui avait appris l'hébreu, qui connaissait non seulement les stratèges israéliens qu'il avait traduits en arabe, ce qui est quand même assez considérable, mais qui savait, à mon avis, exactement où faire mal. Voilà. Et c'est ça qui a été ciblé. C'est aussi quelque chose de l'ordre de « on pourra plus pardonner », vous voyez, c'est-à-dire commettre de l'irréparable. C'est ce choix-là, dingue, sachant en plus quels sont les gens en face, c'est-à-dire un gouvernement très droitier, allié au pire, c'est à des ministres d'extrême droite. Donc, ils savaient très bien à quoi ils exposaient leur population. Voilà, le 7 octobre, c'est le début de cette catastrophe qui se poursuit aujourd'hui.
Très bien, donc... Pour revenir sur l'événement lui-même du 7 octobre, ce qui paraît étonnant et ce qui pose question, pourquoi, comment vous arrivez-vous à penser cette question que donner la mort n'est pas suffisant et que l'on a besoin de meurtrir, de violenter, de déchirer, de découper et d'aller au-delà du fait simplement de tuer?
C'est ce que j'appelle commettre de l'impardonnable et de l'irréparable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté et puis ensuite exhiber les corps, et puis ensuite les mettre sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce de monstration, si je puis dire, de l'horreur, qui est assez inédite en réalité, hein. Enfin bon, qui est un peu la marque de fabrique quand même de l'islamisme, hein. C'est quand même ça que les meurtres en direct, etc. C'est des meurtres, il y en a toujours eu, hein. Des génocides, il y en a eu, on pense aux horreurs des Khmers Rouges, ou bien des staliniens, ou des nazis, n'en parlons pas, mais ils ne filmaient pas leurs horreurs, ils ne s'en vantaient pas. Il ne les mettait pas sur les réseaux sociaux.
Mais parfois, il les cachait.
Et même souvent, il les cachait. Et du coup, ceux qui adhéraient ou voulaient fermer les yeux, par exemple, je pense à gauche, hein, notamment sur les crimes staliniens ou bien sur les maoïstes, ils pouvaient quand même trouver prétexte, voilà, dans le fait qu'on ne voyait pas tout ça. Et ce qui était mis en avant, c'était quand même les belles idées de la gauche, le socialisme, l'égalité homme-femme, enfin tout ce qu'on veut. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Quand quelqu'un comme Judith Butler nous explique en 2006 que le Hamas et le Hezbollah font partie de la gauche globale, on se dit qu'il y a vraiment une catastrophe idéologique, quoi, parce que non, bien sûr que non, ça n'est pas la résistance, ça n'est pas le groupe Manouchian, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est à l'opposé de tout ça. Et c'est une catastrophe pour la cause palestinienne elle-même.
Donc ça réveille des questions fondamentales, vous parliez de Madame Butler, comment peut-on, c'est une Américaine, comment peut-on avoir une telle haine de soi, enfin comment peut-on autant détester le monde qui nous a mis au monde et l'espace dans lequel on vit et on peut développer librement sa pensée.
Oui, c'est, je ne sais pas si c'est une haine de soi, mais il y a beaucoup de... c'est vrai que c'est une forme d'ingratitude, je dirais, mais c'est surtout des postures, hein. C'est quand même des postures. Il nous en parle, hein, dans son petit livre sur le 8 octobre, en disant que la radicalité, finalement, s'inscrit aussi dans une course du libéralisme économique où on va pouvoir ensuite publier des revues, enfin bon, dans une vraie compétition capitaliste, en réalité, entre les universités, puisque c'est ça qui prévaut aux États-Unis. Par ailleurs, il y a... ces gens-là reconduisent la centralité de l'Occident. C'est ça, moi, qui me semble le plus terrible, d'une certaine manière.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les luttes anticoloniales, les luttes antiracistes, mais aussi la littérature, je pense à Toni Morrison, James Baldwin, nous ont appris à ne plus considérer l'Occident comme la seule centralité possible. C'est-à-dire à dire, nous aussi, on existe, hein, avec nos histoires, nos combats. Chez Butler, chez Chomsky, chez tous ces gens-là, en réalité, il n'y a que de l'Occident. La haine de l'Occident étant encore une manière de le mettre dans une centralité absolue. L'impérialisme américain, bien sûr qu'il existe, mais il n'est pas le seul. C'est le moins qu'on puisse dire. On a l'impérialisme russe qui, depuis 20 ans, fait les catastrophes qu'on sait, la guerre en Ukraine, l'écrasement de la Tchétchénie, le fait qu'il ait prêté main forte à quelqu'un comme Bachar el-Assad en Syrie. Toutes ces choses-là n'existent pas au profit d'un grand coupable. Voilà. Et c'est peut-être ça la chose la moins... la moins radicale, si je puis dire, et la moins critique, se situer au cœur. Quand, par exemple, Judith Butler parle de boycott de ses collègues, en réalité, hein, des universitaires israéliens, on a vraiment envie de lui demander mais d'où elle parle. Les États-Unis déploient des centaines de milliers de troupes, de soldats, de forces un peu partout dans le monde. Suivant sa logique, elle ne devrait pas pouvoir s'exprimer en tant qu'américaine. Donc il y a cette espèce d'exception, se mettre dans l'exception, mais finalement dans la norme, quoi.
Alors pour revenir sur le 7 octobre, le 7 octobre est suivi du 8 octobre, donc du démarrage de la guerre, qu'on appelle pour l'instant la guerre entre Israël et le Hamas et maintenant le Hezbollah. Mais où en est-on et comment peut-on penser le 7 octobre avec cette guerre qui pour l'instant a du mal à se terminer et où aucun problème n'est réglé pour l'instant?
Le problème, ce sont les protagonistes. On a aujourd'hui ce qu'il y a de pire du côté israélien comme du côté palestinien. C'est bien ça le problème. C'était les acteurs de la défaite. C'était ceux qui s'opposaient aux accords d'Oslo. C'était le Hamas et l'extrême droite israélienne. C'est ceux qui sont à l'origine de l'assassinat de Rabin. Ils sont aujourd'hui au pouvoir en Israël. C'est ceux qui ont fait tous les attentats possibles dans les années 2000 et qui ont permis à l'extrême droite donc de monter, c'est-à-dire le Hamas et ses attentats à l'aveugle, et qui s'en sont pris aussi aux militants palestiniens de l'autorité palestinienne. Bon, bref. Donc ce sont eux qui se retrouvent aujourd'hui face à face. Donc c'est évidemment un désastre. On ne peut pas parler du 7 octobre sans parler du 8 et du 9 et du 10 et de tout ce qui a eu lieu après. Ça fait un an. Aujourd'hui, on est à un bilan absolument effrayant, puisqu'il y a eu 1200 morts, on le sait, le 7 octobre, mais il y a, pense-t-on, près de 45 000 morts palestiniens. Alors même si on enlève les gens du Hamas, ça fait quand même beaucoup de civils. C'est quelque chose que je crois on ne peut pas consentir à ça. On ne peut pas consentir à ça. Puisque la guerre contre le Hamas, elle est légitime, mais la punition du peuple palestinien ne l'est pas. Et là, concrètement, on sait qu'on est en face d'un groupe politique criminel qui a donc construit des tunnels pour eux-mêmes, mais pas pour la population. On a autour des pays, enfin, notamment l'Égypte, hein, qui ne vont pas leur permettre l'évacuation. Donc il y a là quelque chose d'assez effrayant. Alors certains buts de guerre ont été atteints, il ne faut pas le nier. À part la libération des otages, enfin que partiellement, et dont on se demande d'ailleurs si c'est vraiment la préoccupation de l'actuel gouvernement israélien. Mais bon, assassinat donc de Sinwar, Nasrallah, Haniyeh, so what? Quelle est la solution? Quel est le jour d'après? Ce jour d'après, on l'attend toujours, quoi. On l'attend encore. On sait que ça ne viendra que d'une volonté politique partagée, parce qu'on connaît déjà tous les termes du débat. Comment on va construire, comment on va partager, comment... On connaît tout ça. C'était déjà à peu près dans les accords d'Oslo. Mais il faut maintenant qu'il y ait une volonté politique qui se détache et qui puisse prendre les rênes de cette histoire, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Peut-être que l'arrivée de M. Trump va changer un petit peu la donne sur les rapports entre Israël et certains pays arabes pour la suite, mais enfin ça, on ne va pas faire de pronostics.
Oui, alors pour moi, l'arrivée de Trump, ce n'est vraiment pas rassurant, puisque quand même, il faut quand même savoir que Trump est appuyé et tient aussi sa force de l'Église évangélique. On sait que ces braves gens sont aujourd'hui plus de 700 millions sur Terre. Qu'ils ont eu des rôles tout à fait importants dans l'élection de Bolsonaro. Et on est quand même face à un truc très étrange. Ces gens-là sont des grands pro-sionistes. Pro-sionistes au sens où ils vont donner de l'argent pour construire dans les colonies. Alors ces grands amis d'Israël ont en réalité un objectif.
Religieux, oui.
Voilà. Donc, dans la lutte finale, Armageddon, vous savez, entre Christ, l'Antéchrist, bref. Il faut d'abord que tous les Juifs aillent en Israël, qu'ils mettent la pâtée à tous les Palestiniens, ça fait partie du programme, pour ensuite pouvoir les convertir. C'est quand même de drôles d'amis qui sont, je crois... qui font partie de cette course au suicide finalement qui est en train d'être faite aujourd'hui en Israël.
Si on revient donc en France, le 7 octobre, c'est une chose, et ensuite la guerre, les guerres. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens qui soutiennent, en tout cas ce qu'on voit dans les médias, les Palestiniens, sont de drôles de gens qui ont de drôles de fréquentations et qui disent de drôles de choses concernant les Juifs, concernant l'Occident, concernant la France. Et comment s'y retrouver, comment faire pour faire entendre autre chose, faire entendre par exemple votre voix, que des gens qui manifestent et qui utilisent aussi le peuple palestinien pour des fins qui ne sont pas forcément des fins à destination des Palestiniens eux-mêmes.
Oui, ben, on sait bien que c'est un territoire, Israël, Palestine, la Judée, enfin, on l'appelle comme on veut, c'est un territoire chargé. C'est peut-être un territoire mental encore plus qu'un territoire géographique. On sait que c'est le berceau du judaïsme, et puis on sait aussi l'histoire particulière du christianisme dans cette terre-là. On sait que ça a été le lieu de l'affrontement et du déclenchement des croisades. Donc c'est quelque chose qui n'en finit plus, parce que, bien sûr, c'est pas à n'importe quel endroit de l'imaginaire mondial. Donc c'est le problème. Le problème, c'est que des gens projettent leurs fantasmes sur ces peuples-là qui n'en demandent pas tant. C'est-à-dire qu'au lieu de voir des populations en conflit, des nationalismes en contradiction, parce que c'est aussi ça la question, ils y voient autre chose, des manières de régler leur propre culpabilité. Alors ça, c'est quelque chose qui me semble important. Quand on rend Israël coupable de tous les maux de l'Occident, par exemple, quand on dit de lui qu'il est colonialiste par essence, hein, donc on ne parle pas des territoires occupés, mais ce serait un projet colonial face à une Palestine indigène. On sait que les Juifs, de toute façon, ils ne sont jamais de nulle part. Hein. Donc, colon, c'est presque, c'est presque un pléonasme. Quand on dit apartheid, quand on dit génocide, en réalité, on met sur Israël bien des mots qui ne lui appartiennent pas. C'est peut-être une manière d'effacer, en fait, hein, l'ardoise de la culpabilité. Puisqu'on sait que l'Occident, l'Europe en particulier, a quand même eu affaire avec le malheur des Juifs. On sait que l'Occident a consenti, l'Europe a consenti d'une certaine manière au génocide. Et on sait aussi qu'elle a une dette coloniale. Et dans cette histoire, on peut effacer les deux. Parce que, bien sûr qu'on peut critiquer Israël à juste titre, et je ne me suis pas épargné cette critique. Après, que pour des Palestiniens, par exemple, Israël soit l'ennemi, qui soit même anti-sioniste, on peut le concevoir. Par contre, que le sionisme soit l'ennemi du genre humain, là, on est ailleurs. On n'est plus dans un débat politique. On est encore une fois dans ce fantasme antisémite qui reprend toujours le même imaginaire, c'est-à-dire un peuple de trop sur la terre, une élection imméritée, la spoliation, le complot juif. C'est-à-dire que le sionisme ne serait pas un mouvement nationaliste avec tous ses tares, j'ai envie de dire, comme tous les nationalismes. Personnellement, je suis toujours aussi critique, voire... Mais non, ce serait finalement un mouvement de domination mondiale. Donc là, évidemment, on est plus proche des protocoles des sages de Sion plutôt que de l'idée, d'ailleurs, socialiste et tout ça, c'est évident.
Faire écho à ce que vous avez dit, je crois que c'est Golda Meir qui disait que les Occidentaux se pardonneraient jamais à Israël. Les meurtres que l'Occident a commis contre les Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que vous évoquez, une culpabilité qui est transformée en agressivité et en refus de l'autre, enfin en l'occurrence de la figure du Juif.
C'est dans le beau film, c'est une trilogie d'Axel Corti qui s'appelle Welcome in Vienna, où des juifs allemands réfugiés, enfin qui cherchent à se réfugier, qui sont sur un bateau en quittant l'Allemagne nazie. Donc il y en a un qui dit à l'autre, ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. Et je crois qu'on est, oui, bien sûr, au centre de ça. Les juifs sont venus apporter une mauvaise nouvelle, hein, si je puis apporter, me référer à un vocabulaire un petit peu religieux. Non, la rédemption n'a pas eu lieu. Ce qui s'est passé avec la Shoah, c'est un peu comme une illustration de ce que l'humain peut faire à l'autre humain. Les juifs ont été un peu les messagers de cet effroi. Quand on a une dette, il faut la faire face. Et je pense que l'Europe et le reste du monde auraient pu agir de manière intelligente pour que ces deux peuples là-bas trouvent une solution. Deux peuples finalement battus par l'histoire. Au lieu de ça, on a choisi des voies qui sont des catastrophes, parce que l'antisémitisme est une catastrophe pour la cause palestinienne. Évidemment. Il y a des tas de gens qui aimeraient manifester leur solidarité, par exemple, face à un peuple qui est aujourd'hui sous les bombes, mais qui n'ont pas envie de se retrouver avec les frères musulmans, des islamistes ou des antisémites. Donc l'antisémitisme est le linceul de la cause palestinienne. Ce n'est pas quelque chose, comme le disent un peu la LFI, qui serait, certains courants d'extrême gauche, qui serait inévitable. Vous savez, c'est un peu comme quand on parlait du socialisme des imbéciles, c'est un peu inévitable. Non, c'est contradictoire avec le socialisme, c'est contradictoire avec la solidarité nécessaire avec les Palestiniens.
Vous avez une très belle phrase dans la conclusion de votre livre. Je rappelle que ça s'appelle « L'antisémitisme, un meurtre intime ». L'antisémitisme est l'autre nom de la haine. Il est sans doute cet édifiant modèle de la rage intime contre l'origine, du refus de toute dette à l'égard d'autrui, en même temps que la hantise du désir que tout autre, avec un majuscule, par son nom coupable, peut susciter en soi. Je me permettrai de vous demander de commenter cette phrase très concentrée.
Elle est très concentrée, oui, elle vient résumer un peu le livre. L'idée, c'est que par l'anti-judaïsme originel, donc chrétien essentiellement, les juifs ont été mis à cette place d'une altérité fondatrice, fondamentale, originelle. Mais en réalité, les juifs font partie de l'histoire des chrétiens, de la même manière que l'autre fait partie de soi. Voilà, on a toujours un autre en soi qui suscite la responsabilité. Et il y a toujours aussi la tentation de s'en séparer, de le mettre à l'extérieur de soi, comme si on mettait le mal en même temps du côté de ce qui est autre. S'il y a une quand il n'y a pas d'horizon d'émancipation collective, il y a une tendance au ressentiment. Le ressentiment, c'est le repli donc sur soi, c'est le rejet des autres. En politique, ça peut devenir le conspirationnisme, par exemple. Voyez, comme une traduction politique d'un affect personnel. C'est-à-dire que, au lieu de militer, d'aller de se syndiquer, de faire des partis, etc., ou bien de dénoncer vraiment un système, comme l'ont fait d'ailleurs Marx et Engels, mais dans le Capital, en parlant vraiment des rouages économiques, etc., du capitalisme, ont préféré une vision démoniaque. Un grand Manitou à l'origine du mal dans le monde. Et on sait très bien que tout antisémitisme est un conspirationnisme et que tout conspirationnisme a toutes les chances d'aboutir à ce vieil imaginaire du coupable originel, du marionnettiste, d'ailleurs, comme les affiches qu'on voit, toutes les affiches antisémites raconter cette histoire-là. Donc voilà, ce rejet de l'autre fondamental, il est mauvais pour tout le monde, Évidemment, le racisme grimpe aussi. De plus en plus, des gens gagnent des élections avec des programmes de refus de l'autre, hein, tout simplement. Et le juif, ce grand hôte de l'histoire, on risque de retomber dessus, évidemment, parce que, comme on dit, c'est un bouc émissaire, si je puis dire, mais qui a du métier, quoi, qui a une longue histoire.
Très bien, je vous remercie Madame Brigitte Storal. Et je rappelle le livre que vous avez écrit, « L'antisémitisme, un meurtre intime » aux éditions Le Bord de l'eau, dans la collection Documents.